Étienne Gis, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'École normale supérieure de Lyon, et qui est aussi rédacteur en chef des publications mathématiques de l'IHES. Et Étienne, ce matin, va nous parler d'un sujet qui est mélange la géométrie et la combinatoire, qui s'appelle Pavage d'hier et d'aujourd'hui. À toi.
Donc je vais commencer comme l'exposé précédent en disant qu'il n'est pas facile de parler devant un auditoire à ce point. Donc faut parler plus fort. Voilà. Donc j'étais en train de dire que je vais commencer comme l'exposé précédent en expliquant à quel point il est difficile de parler devant un auditoire inconnu et disparate en quelque sorte, puisque je vois un grand nombre de collègues devant moi. Je vais essayer d'être encore plus élémentaire que l'exposé précédent. C'est aussi une des caractéristiques des mathématiciens de croire que ce qu'ils font est élémentaire. Alors, je voudrais vous parler donc de pavage. Mon but est de vous raconter une petite histoire avec, au bout du compte, au bout de la demi-heure, je voudrais vous présenter un problème ouvert qui m'intéresse depuis longtemps et que j'aimerais partager avec vous. Alors, nous allons commencer très loin, nous allons commencer il y a 2500 ans, avec un théorème qu'on attribue en général à Pythagore, et qui nous explique comment il est possible de paver le plan avec des polygones réguliers. Vous prenez un triangle équilatéral, ou un carré, ou un hexagone, il est bien connu qu'il est possible de paver le plan avec des hexagones, avec des hexagones réguliers, avec des carrés ou avec des triangles équilatéraux. Voici la figure que nous connaissons tous. Vous pouvez paver votre salle de bain avec des carreaux carrés, triangulaires équilatéraux ou hexagonaux. Et le théorème de Pythagore, je pense que même si aujourd'hui c'est une chose très facile et élémentaire, je pense que ceci continue d'avoir une grande importance en sciences et en mathématiques en particulier. Seuls ces trois polygones réguliers pavent le plan. Alors, encore une fois, il s'agit d'une chose qui, je crois, a une grande importance dans beaucoup de domaines des sciences, par exemple en cristallographie, mais pas seulement. Et puis, l'artiste que nous connaissons tous, Escher, aime bien mélanger, regardez, cette jolie gravure où en bas vous avez le pavage par hexagone régulier et puis en haut ce sont des carrés et puis ils s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour passer continuellement en quelque sorte de l'un à l'autre. Alors, tout théorème nécessite démonstration, n'est-ce pas? Alors je vais vous démontrer le théorème de Pythagore. Vous allez voir, c'est facile. Il s'agit de vérifier que les polygones qui ne sont ni des triangles équilatéraux, les polygones réguliers, qui ne sont ni des triangles équilatéraux, ni des hexagones réguliers, ni des carrés, ne peuvent pas paver le plan. Alors le prototype d'exemple, c'est le pentagone régulier. Eh bien, la démonstration est là, ça ne marche pas. Vous voyez, vous mettez un pentagone régulier sur le plan, vous en mettez un autre à côté, vous en mettez un troisième, et vous libérez ainsi un interstice dans lequel il n'y a pas de place pour en mettre un quatrième. Ça ne marche pas. Donc le pentagone régulier ne pave pas le plan. Pour l'heptagone, dès qu'il y a plus que 7 côtés ou plus, la démonstration est en quelque sorte la même. Vous mettez un heptagone régulier, vous en mettez un autre à côté, un troisième, c'est trop grand, il y a chevauchement des pavés, le truc ne marche pas. Voilà, donc c'est fait. Les seules solutions, c'est hexagone, carré, triangle équilatéral. Alors ça, c'était donc il y a 2500 ans. Vous pouvez imaginer qu'on a fait quelques progrès depuis. Mais ça a été assez lentement. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que les gens regardent ça d'un peu plus près. Et je voudrais vous montrer une figure qui est extraite d'un livre très célèbre de Kepler. L'harmonie des mondes, 1619, dans lequel Kepler s'amuse à tracer des pavages du plan où il ne s'autorise que des polygones réguliers. Mais au lieu d'utiliser un seul polygone régulier, comme dans le cas de Pythagore, il s'autorise à en utiliser plusieurs. Vous voyez, il y a des tas de pavages qui... certains utilisent des carrés, des triangles équilatéraux, d'autres des octogones, d'autres des dodécagones. Vous voyez, toutes sortes de figures qui sont très, très, très merveilleuses. À l'évidence, Kepler s'est attaqué au problème de comprendre les pavages du plan par pavé polygone régulier, en s'autorisant de mélanger un certain nombre d'entre eux. Alors Kepler, bon, vous le connaissez tous pour ses contributions en astronomie, bien sûr, mais il faut savoir que Kepler était un esprit totalement universel, qui avait une conception de la science extrêmement moderne, et qui, en particulier, avait en tête, je pense que ça se raccroche à l'exposé précédent, qui avait une haute conception de la symétrie. Kepler était convaincu que l'explication des phénomènes du monde, cosmique en particulier, devait trouver leur source dans les symétries. Et il est de bon ton aujourd'hui de se moquer de la théorie principale de Kepler, qu'on en général on dit pas dans les lycées, c'est que Kepler avait l'idée que si on emboîte les polyèdres réguliers, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre, etc., si on les emboîte les uns dans les autres d'une manière concentrique, en quelque sorte, eh bien les rayons des sphères circonscrites à ces polyèdres réguliers devraient correspondre aux rayons des orbites des cinq planètes qu'on connaissait à l'époque. Alors c'est parfaitement ridicule aujourd'hui, parce que d'abord il n'y en a pas cinq, il y en a plus. Et puis d'autre part, on se demande aujourd'hui pourquoi les polyèdres réguliers auraient quelque chose à voir avec les rayons des planètes, des orbites des planètes. Mais je pense que ce n'est pas si ridicule que ça. C'est la recherche d'une explication de la cosmologie ou de toute la science en termes de symétrie. Vous savez, aujourd'hui, il y a un livre célèbre de mécanique céleste, dans lequel Sternberg, l'auteur, explique cette théorie de Kepler un peu ridicule, et il dit qu'il est de bon ton aujourd'hui de se moquer de Kepler, et il dit les gens se moquent un peu moins des physiciens et théoriciens d'aujourd'hui qui expliquent les particules élémentaires avec les algèbres de Lie semi-simples. C'est un peu la même chose. On veut coller à la nature des objets qui ont une haute symétrie, on veut comprendre la nature à partir d'objets réguliers. C'est un peu ce que voulait faire Kepler. Là, bien entendu, Kepler n'a rien démontré, il a juste fait des listes, il a fait des dessins, trouvé des exemples. Alors, je vais passer à un théorème beaucoup plus récent, puisque nous sommes déjà au début du XXe siècle, hein, 1901, ou je ne sais plus, quelqu'un qui s'appelle Badoureau, qui entreprend l'étude systématique des pavages du plan avec des polygones réguliers, mais avec une contrainte, la contrainte que je vais vous expliquer tout de suite. Il demande que les sommets sont tous de même type. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Et il démontre qu'il y en a 11. Il y a 11 exemples de pavages du plan par des polygones réguliers ayant tous le même type de sommet. Alors, je vais vous les montrer, les 11, et vous expliquer du même coup qu'est-ce que ça veut dire avoir le même type de sommet. Regardez, en voici deux. Vous avez ici un pavage en haut, un pavage par hexagone régulier, en quelque sorte entouré par des triangles équilatéraux. Et vous voyez que chaque sommet en haut, là, chaque sommet est entouré par deux hexagones réguliers et deux triangles équilatéraux. Et que la même chose se passe pour tous les sommets. Et plus précisément, quand je fais le tour d'un sommet, vous voyez que je vois apparaître hexagone, triangle, hexagone, triangle. Et la même chose se passe dans tous les sommets. Donc, en quelque sorte, tous les sommets sont pareils. Ils sont tous entourés par des polygones du même type et dans le même ordre circulaire. En dessous, vous voyez la même chose, vous avez encore un pavage, où là, vous avez des octogones et puis des carrés. Eh bien, pour chaque sommet, vous avez deux octogones et un carré, et tous les sommets ont le même type. Alors donc, ce qu'affirme le théorème de Badoureau, c'est que il y a 11 manières de faire cela dans le plan. Bien entendu, parmi les 11, il y a les 3 que nous connaissons déjà, les 3 de Pythagore, les 3 qui sont réguliers, et il y a 8 autres familles. Je vous en ai déjà montré 2. Je vais vous en montrer encore deux autres. Alors, pour des raisons bizarres, les gens appellent ça les pavages archimédiens. J'imagine qu'Archimède n'a rien à voir là-dedans, mais je ne sais pas. En voici deux autres. Alors, vous voyez également que chaque sommet, ils sont toujours du même type. Hein. Il y a deux, en haut, par exemple, il y a trois triangles équilatéraux et deux carrés, mais c'est plutôt triangle, triangle, carré, triangle, carré. Hein. Alors qu'en bas, vous avez également trois triangles et deux carrés, mais pas dans le même ordre. Vous avez triangle, 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 carré, carré. Donc ça fait... combien j'en suis ? J'en ai encore quatre à vous montrer. Voici encore deux. Et en voici encore deux. Donc ça fait 11 au total. Je vous en ai montré 8, plus les 3 avec un seul pavé, ça fait 11. Pour être clair, je devrais dire 12. Parce que si je retourne mon transparent, celui du haut a changé. Enfin, il a changé. C'est à discuter, vous voyez. Celui du haut, il y a 4 triangles équilatéraux et un hexagone. Si je change... Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Celui du haut, il a deux formes symétriques, mais en quelque sorte différentes. Mais j'ai envie de les considérer comme les mêmes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a 11. Donc, vous voyez, on a quand même mis du temps pour passer depuis Pythagore, 500 ans avant Jésus-Christ, jusque ce théorème qui est début du siècle. On a eu du temps pour faire des progrès. Et ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, même sur un sujet qui paraît aussi naïf, en quelque sorte. Alors, voici un programme général. Comprendre la structure des pavages du plan, dont les pavés sont des polygones réguliers. Eh bien, je vais vous dire, pour l'essentiel, ce problème est ouvert. Alors, ce n'est pas vraiment de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais pour vous montrer à quel point la situation est riche, je vais vous faire défiler des exemples. Regardez. Voilà toute une ribambelle d'exemples de pavage du plan où chaque pavé est un polygone régulier. Et vous voyez, j'ai mis en couleur ici pour choisir un exemple. Vous avez, dans l'exemple que j'ai choisi, vous avez des hexagones, des carrés et des triangles équilatéraux qui sont mélangés. Mais vous voyez que ces exemples ne sont pas dans la liste de Badoureau, puisque vous y voyez apparaître des sommets de nature différente. Vous avez deux points noirs qui sont indiqués sur la figure ici, qui indiquent deux sommets. Eh bien, ils ne sont pas pareils. Autour de ces deux sommets, vous avez deux situations locales qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, toutes les situations présentées sur cette figure sont celles pour lesquelles il y a deux types de sommets. Et ce n'est pas terminé. Il y en a encore d'autres. Regardez. Et puis, à ma connaissance, même en imposant cette condition, trouver tous les pavages du plan par des polygones réguliers ayant deux types de sommets, personne ne sait faire. Regardez encore d'autres exemples avec plus de types de sommets. Vous voyez, ça commence à faire une grande quantité d'objets qu'on aimerait comprendre. Alors, c'est pour ça que j'ai mis au début, je n'ai pas posé la question classifier ou trouver la liste, ça me semble trop ambitieux. La bonne question, c'est comprendre. Comprendre, ça veut dire pas grand-chose. Je pense qu'il est trop ambitieux de vouloir en donner une liste complète. Et puis, pour vous montrer que le problème est loin d'être résolu, je vous ai parlé d'un polygone régulier. Sous-entendu, je pensais polygone régulier convexe. Et vous voyez, si on s'autorise à mettre des polygones qui ont une symétrie, enfin qui ne sont plus convexes, mais qui peuvent maintenant être stellaires, on peut trouver des tas d'exemples, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, que là encore, on aimerait comprendre. Mais ce sujet des pavages par polygones réguliers, qui pour l'essentiel est encore ouvert, je vais l'abandonner maintenant, on va parler d'autre chose. Je vous propose de parler de pavage par des polygones non réguliers. Mais au lieu de prendre beaucoup de polygones, je vais en prendre un seul. Donc je vous pose la question suivante. Quels sont les parages? Quels sont les polygones du plan? Disons convexe pour ne pas se fatiguer. Quels sont les polygones du plan avec lesquels on peut paver? Donc je vais chercher des pavés de forme unique qui permettent de paver le plan. Alors, c'est ce problème, pour l'essentiel encore ouvert, que je vais vous résumer aujourd'hui. Alors, ça commence bien. Il y a un théorème qui nous simplifie la vie. Le théorème est le suivant. Si vous prenez un polygone qui a 7 côtés ou plus, ce n'est pas la peine d'essayer. Avec ce polygone, vous ne pourrez jamais paver le plan. Alors ça, c'est un vrai théorème. Je crois qu'on peut dire qu'au début du siècle, il aurait été considéré comme difficile. Aujourd'hui, je pense que presque tout mathématicien peut le résoudre tout seul, quoi. Ça fait partie de la culture d'utiliser des techniques qui sont aujourd'hui bien comprises. Et si j'avais, disons, un quart d'heure de plus, je pourrais vous le démontrer. Autrement dit, pour partir à la chasse aux polygones qui pavent le plan, nous n'avons qu'à chercher parmi les triangles, les quadrilatères, les pentagones et les hexagones. Alors la situation est très facile. Ah, j'ai perdu un transparent, mais c'est pas grave. Je vais transformer en exercice pour vous. L'exercice est le suivant. Tout triangle pave le plan. Vous avez un triangle de forme quelconque. Exercice, vous pouvez, avec ce triangle, paver le plan. Facile. Exercice un peu plus difficile, mais facile également. Tout quadrilatère convexe pave le plan. Vous prenez un quadrilatère de forme quelconque, vous pouvez, avec un pavé ayant cette forme, vous pouvez paver le plan. C'est l'exercice qui était dessiné, dont la solution était dessinée sur un transparent qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Autrement dit, notre problème se limite aux hexagones et aux pentagones. Quels sont les hexagones qui pavent le plan? Quels sont les pentagones qui pavent le plan? Pour les hexagones, le problème est réglé. C'était le sujet de la thèse d'un étudiant de David Hilbert en 1918, qui s'appelle Reinhardt, qui, en 1918, a trouvé tous les hexagones qui pavent le plan. Alors, je vous ai dessiné, j'ai photocopié plus précisément, pour être plus honnête, j'ai photocopié les types d'hexagones qui permettent de paver le plan. Alors, quand je dis type, ça veut dire, vous voyez, en haut à droite, j'ai marqué les conditions. Par exemple, le premier type d'hexagone, j'ai marqué petit a égale petit d, grand a plus grand b plus grand c égale grand d plus grand e plus grand f égale 2pi. C'est-à-dire, j'ai écrit les conditions imposées à l'hexagone. Alors, ces conditions ne fixent pas l'hexagone de manière stricte. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont encore flexibles dans l'hexagone. Autrement dit, ces trois hexagones sont en fait trois familles d'hexagones, dont les hexagones réguliers, par exemple, ne sont que des dégénérescences. Eh bien, le théorème de Reinhardt, moi, ça me fait toujours un peu fantasmer de penser que des gens peuvent démontrer ce genre de théorème en pleine guerre, mais ce théorème de Reinhardt dit que les trois familles d'hexagones que j'ai dessinées là pavent le plan, ça c'est facile, la preuve est dessinée à côté. Vous voyez que à côté, vous avez l'explication qui vous dit pourquoi ces hexagones pavent le plan. Mais la partie difficile du théorème de Reinhardt, c'est la réciproque. Ça consiste à dire que tout autre hexagone n'appartenant à aucune de ces trois familles ne pave pas le plan. Et ça, c'est un théorème de toute beauté, assez peu connu des mathématiciens, je crois. J'ai eu l'occasion d'étudier cette thèse de Reinhardt il y a 3 ans. Donc je travaille à Lyon et nous avons des élèves qui font des stages de magistère. Et j'avais trouvé que c'était une bonne idée de faire lire cette thèse à un étudiant et de lui demander, en quelque sorte, de dépoussiérer la démonstration, de l'écrire en termes modernes et accessoirement en français. Et l'étudiant l'a fait, mais ça a été très difficile pour moi de convaincre cet étudiant que ceci, ce sont des mathématiques. Il avait l'impression que travailler avec des hexagones, ce n'est pas sérieux. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Un mathématicien a le droit de travailler avec des objets simples. Mais peut-être même le devoir, on l'a vu tout à l'heure, avec des triangles. Même, hein. Alors, là encore, la démonstration de Reinhardt est merveilleuse. Si vous me donniez une heure, je vous l'expliquerai. Donc, le cas des hexagones, c'est fini. Qu'est-ce qui nous reste ? Le cas des pentagones. Alors, pour les pentagones, on peut d'abord se demander, on peut se poser la question de savoir si ça existe. Est-ce qu'il existe des pentagones qui pavent le plan ? Alors, regardez, il y a quelques exemples. Regardez quelques exemples. Il y en a qui sont jolis. Regardez, le premier est un peu triché. Hein. Vous prenez le pavage par hexagone régulier, puis vous coupez comme ça en deux. Bon, c'est pas très drôle. Par contre, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'aime bien celui-là. Je le trouve très joli. Et là, toute une symétrie cachée. À vrai dire, pas si cachée que ça, puisque si je voulais être un tout petit peu technique, je dirais que ce pavage n'est rien d'autre que le dual de l'un des pavages d'Archimède que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, mais peu importe. Voilà, donc ça existe. Il existe des pentagones qui pavent le plan. Et la question est donc, est-ce qu'on peut faire un travail à la Reinhardt ? Est-il possible d'en dresser la liste complète ? Alors, bien entendu, le premier qui a regardé ça, c'est bien sûr Reinhardt. Il a essayé de s'attaquer au problème, mais il n'a pas réussi. Mais ce qu'il a réussi quand même à faire, c'est à trouver beaucoup d'exemples. Il a trouvé 5 familles de pentagones. Et voilà, les 5 familles de Reinhardt. 5 familles de pentagones qui pavent le plan. Alors, les notations sont les mêmes que tout à l'heure. Hein, puis, vous avez donc 5 familles qui sont décrites par les conditions qui sont à gauche. Et puis, à droite, vous avez un petit dessin qui vous explique pourquoi le pentagone correspondant pave effectivement le plan. Mais Reinhardt n'a jamais prétendu, et il a probablement essayé très fort, il n'a jamais prétendu que ces 5 familles de polygones étaient les 5 pentagones, étaient les seuls pentagones qui pavent le plan. Mais je suis à peu près persuadé qu'il aurait bien aimé le démontrer. Il aurait eu tort, puisque le problème a été repris en 1968 par un mathématicien qui s'appelle Kirchner, et qui, lui, a eu plus de chance. C'est-à-dire qu'il a repris la question, il a commencé par se rendre compte qu'il en existait 3 autres familles, 3 pentagones, 3 familles de pentagones qui également pavent le plan, vous avez ça ici, et puis surtout, il a démontré un théorème. Il a démontré le théorème que les 5 familles de Reinhardt plus ces 3 familles à lui de Kirchner, donc les 8 familles qui sont projetées sur les projecteurs, les 8 familles en question sont les seules pentagones qui pavent le plan. Et il a publié ceci dans un journal, comme tout mathématicien qui a démontré un théorème. 7 ans plus tard, le journaliste célèbre Martin Gardner, celui qui s'occupait de la revue mathématique, de la partie mathématique du Scientific American, a eu l'idée, la bonne idée, je dirais, il a eu la bonne idée d'exposer ce théorème de Kirchner dans le Scientific American. Donc il a écrit un article très joli dans lequel il explique l'histoire, les pavages par hexagone, pavages par pentagone, un peu comme je viens de vous faire maintenant. Et il explique, regardez, c'est joli, Kirchner vient de démontrer qu'il n'y a que ces 8 familles. Et puis je crois que vous devinez la suite. La suite, c'est que le Scientific American est arrivé dans un certain nombre de foyers aux États-Unis, et puis en particulier chez quelqu'un qui s'appelle Marjorie Rice, une Californienne pas du tout mathématicienne, qui n'était même pas abonnée à ce journal, c'est ses fils qui étaient abonnés. Et puis, elle raconte en toute simplicité que, donc dans un article par la suite, elle raconte en toute simplicité que le journal arrive, elle regarde des jolies figures, elle trouve ça intéressant, elle ne lit même pas l'article complet, elle dit, tiens, il y a quelqu'un qui a trouvé toutes les manières possibles de paver par des pentagones, moi je vais essayer de le trouver moi-même. Et donc, elle essaye avec des bouts de papier, des bouts de carton, elle essaye de construire et elle trouve des exemples de pentagones qui pavent le plan, elle en trouve. Et puis, quand elle a eu fini de trouver ces exemples, elle a repris le journal pour confronter les exemples qu'elle avait trouvés avec la liste de Kirchner. Et là, la chose intéressante, c'est qu'elle avait trouvé un exemple de plus que Kirchner. Autrement dit, l'article de Kirchner était faux. Pas qu'il était faux, il est faux. Et donc, je vous donne, par exemple, la première découverte de Marjorie Rice. Voici un pavage par pentagone qui n'est pas dans la liste que je vous ai indiquée des pentagones. Alors là, la chose a été très, très intéressante, puisque donc Marjorie Rice s'est mise à travailler sur cette question. Elle a communiqué à travers Martin Gardner avec Kirchner. Il s'est passé une interaction, ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble. Mais il se trouve donc dans un article de Kirchner, il explique comment ça se passe. Il se trouve que Madame Rice faisait ça un peu en cachette parce qu'elle avait un petit peu honte. Comme ça, quand les enfants n'étaient pas là, elle faisait des pavages. Et ça a bien marché, puisque ça, c'est la première découverte. Et si je mets la première, c'est plutôt d'autres. Et puis au bout du compte, maintenant, on n'en a plus 8 des familles de pentagones, on en a 13. Voilà les 13 familles de pentagones dont nous disposons actuellement. Et là, on se retrouve dans une situation un peu sérieuse, puisque on ne sait pas si c'est complet. Et on sait d'autant moins que c'est pas complet. Puisque en 87, quelqu'un qui s'appelle M. Stein, dont je ne sais rien, je peux dire qu'il n'a rien publié, c'est visiblement pas un mathématicien, puisque dans le Mathematical Reviews, on ne trouve aucune contribution de ce monsieur, en tout cas sur les pavages, monsieur ou madame, j'en sais rien d'ailleurs. Voici le pentagone numéro 14. Le 14e qui pave le plan et qui nous laisse dans un embarras le plus total. Voici comment il pave le plan. On n'en sait plus rien, on ne sait plus que dire. On se trouve dans une situation un peu délicate, où un théorème a été vrai à un moment, et il est maintenant faux. Et voilà. Alors, je m'étais dit que c'était un sujet qui mériterait d'être expliqué ici, parce qu'il montre un peu comment fonctionnent les mathématiques, comment fonctionne la vie dans la communauté mathématique, les exemples, les contre-exemples, comment les choses progressent peu à peu, et puis comment ces choses vont calmement. Vous avez vu, on est parti il y a 2500 ans, et on en arrive à des questions qui aujourd'hui sont ouvertes. Et je pense que c'était un bon exemple à vous montrer. Alors, pour terminer cet exposé, il me reste quelques minutes. J'aurais voulu essayer, mais c'est très difficile, essayer de vous dire pourquoi je vous ai montré ça. Alors, d'abord, il faut que je sois tout à fait honnête, et je crois que vous le comprendrez. Parler devant un auditoire à ce point varié force le conférencier à choisir un sujet abordable par tous. Donc, très clairement, je ne passe pas, moi, Étienne, je ne passe pas ma vie à penser au Pentagone. Mais, pour être tout aussi honnête, le fait que ce problème de Pentagone qui pave le plan soit ouvert, ça fait environ 10 ans que je sais que c'est un problème ouvert, et pour être honnête, j'y pense régulièrement. Encore une fois, pas à temps plein, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête de temps en temps, j'aimerais bien faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire en fait vous comprenez bien que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas d'en rajouter un 15e ou un 16e ou un 17e, et puis de montrer même que la liste est complète, parce que, bien entendu, nous n'avons pas tous envie de faire de la botanique et faire des listes sèches de cas. Ce qui m'intéresse, je vais essayer de vous expliquer ce qui m'intéresse dans ce problème, c'est que, comme vous l'avez probablement remarqué, la plupart des figures que je vous ai montrées avaient une symétrie, beaucoup de symétrie. A priori, nous ne parlions que de pavage par pentagone. Je prends un pentagone et je me mets à paver le plan. Il se trouve que les figures que je vous présente ont de grandes symétries. Vous voyez ici des translations qui préservent la figure. Toutes les figures que je vous ai présentées ont des symétries. D'où une question qui n'est pas la mienne d'ailleurs, c'est l'une des questions qu'a posée Hilbert en 1900, c'est le 18e problème de Hilbert, d'où une question qui est en quelque sorte une question de fond, c'est y a-t-il une raison a priori pour que un pavage par pentagone possède des symétries? Bon, telle quelle, la réponse est non. Mais si je la reformule un peu différemment, on pourrait la dire comme ceci. Si un pentagone pave le plan, est-il vrai que le même pentagone pave le plan de manière symétrique? Et symétrique, ça veut dire quoi? Symétrique, ça veut dire, disons, qu'il y a symétrique invariant par deux translations, par exemple. Cette question-là m'intéresse. Cette question-là m'intéresse parce que j'aimerais savoir si une condition locale, comme paver avec un pentagone, peut créer une condition globale telle que la symétrie. C'est un peu comme la conférence précédente avec le théorème de Morlaix. On part d'un triangle quelconque et pouf, arrive un triangle équilatéral plat au milieu. Là. D'où vient cette symétrie? Et vraiment, je pense, j'avais prévu cette conclusion en quelque sorte indépendamment de la conclusion d'Alain Cohn précédente, je pense que vraiment, s'il fallait résumer le travail du mathématicien, ça serait très certainement la recherche de la symétrie. Nous cherchons des symétries partout, et les symétries peuvent avoir des formes très géométriques, comme je vous l'ai montré, mais elles peuvent également avoir des formes très algébriques, comme on l'a vu dans l'exposé précédent. En fait, si je poussais un peu plus loin, ce n'est pas le travail du mathématicien qui consiste à chercher des symétries, c'est le travail du scientifique. Des symétries, on n'en voit pas qu'en maths, on en voit en chimie, on en voit en biologie, on en voit même en linguistique, enfin, je veux dire, on en voit partout. Et je pense que voilà pourquoi j'ai choisi cet exposé, c'était pour vous parler de symétrie. Merci.
Merci Étienne, ta ponctualité parfaite nous donne le temps pour quelques questions.
Je peux peut-être vous montrer les transparents que j'avais prévus. La suite. Oui, je vous écoute.
Bonjour. Juste, je voulais dire qu'il y a une très jolie illustration du fait que n'importe quel quadrilatère pave le plan dans le CD-ROM Geoflash qui est sorti par Kangourou.
Ah, d'accord.
Donc c'est animé, c'est très joli.
Très bien.
Et je voulais poser la question, est-ce que dans l'idée de pavage, il n'y a pas un variant par translation? Parce que vous avez présenté un pavage là, qui avait l'air de partir en étoile.
Voici un joli exemple dont j'avais l'intention de parler, mais comme j'aime être ponctuel. Voici l'exemple fameux des pavages de Penrose. Vous voyez un pavage qui a l'air d'avoir des symétries, qui n'en a pas. Aucune translation ne préserve ce pavage. Si vous regardez un petit bout là, vous allez le retrouver ailleurs, mais aucune symétrie globale du plan ne préserve ce pavage. C'est la chose merveilleuse dans les pavages de Penrose. Il est quasi-périodique, il y a des quasi-symétries, mais il n'y a pas de vraie symétrie. Donc dans la condition pavage, je mets des pavés bout à bout, mais je ne mets pas dans mon contrat de les mettre de manière symétrique. Il n'y a aucune raison a priori, et même a posteriori, comme le montrent les pavages de Penrose, il n'y a aucune raison qu'il y ait des symétries.
Donc qu'est-ce qu'on appelle un pavage alors?
Pavage, c'est mettre des pavés bout à bout, de façon à recouvrir le plan, sans qu'ils se chevauchent.
Et alors comment est-ce qu'on peut prouver que ça recouvre bien le plan?
Ah, c'est une question intéressante. Voilà, comment est-ce qu'on peut démontrer? Voici un exemple intéressant d'un théorème tout à fait merveilleux. Voici un théorème. Supposons qu'on ait un certain nombre de pavés et que quelqu'un m'enseigne, m'affirme qu'avec ces pavés, je peux recouvrir un disque de rayons arbitrairement grands. Quelqu'un m'a dit ça d'une manière ou d'une autre. Alors, avec ces mêmes pavés, je peux recouvrir tout le plan. Voilà un théorème. Pas complètement trivial, il faut réfléchir un petit peu. Hein. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait pour le pavage de Penrose. On commence par montrer que les pavés que j'ai dessinés ici permettent de paver un disque, disons, de rayon 10. La preuve est sur le transparent. Et ensuite, on explique une méthode par subdivision et expansion, comme on dit. On explique une méthode qui permet, à partir d'un pavage d'un disque de rayon 10, d'en construire un autre sur un disque de rayon 20, par exemple. Puisqu'on sait faire sur 10, on sait faire sur 20, on sait faire sur tous les rayons, on applique le théorème précédent et on démontre que ça pave le plan. Et par ailleurs, avec une méthode que je n'ai pas envie d'expliquer maintenant, on démontre que ce même pavage ne peut posséder aucune symétrie. D'accord ?
Si j'ai bien compris, un polygone de plus de 7 côtés ne peut pas paver le plan. Or, quand vous avez montré les réponses avec les pentagones, si on les assemble par 3, il y a des polygones à plus de 5 côtés qui peuvent paver le plan. Les pointillés que vous avez fait apparaître sur les pentagones.
Je ne pense pas. Ah, par exemple là, c'est ça ?
Non, pas celui-là. Si, là-haut, les pointillés correspondent. Si vous enlevez les pointillés, vous avez un polygone à je ne sais pas combien de côtés qui paverait le plan.
Est-ce que je l'ai dit une fois, mais je ne sais pas si je l'ai dit aussi souvent qu'il fallait. Il fallait dire convexe. Convexe. Je suis désolé. Ça y est. J'ai dit une fois,
mais c'était pas écrit. Le théorème, c'était pas écrit.
C'était pas écrit. Je suis désolé.
Pardon.
Je suis désolé. Mea culpa.
Est-ce qu'il existe des travaux analogues pour le pavage de l'espace à 3 dimensions et voire à 4, etc. ?
Oui, la réponse est oui, mais c'est encore plus difficile, bien sûr. Hein ? Les gens disent en général qu'un mathématicien, quand on lui pose une question, il répond, il ne sait pas faire en général, et il en pose une autre plus compliquée, donc vous devez être mathématicien. Hein ? Il est vrai que, par exemple, je vais vous parler à l'instant du 18e problème de Hilbert. Eh bien, Hilbert l'avait formulé dans l'espace de dimension 3 parce qu'il pensait naïvement que c'était trop facile en dimension 2. Hein ? Mais effectivement, en dimension 3, il existe également des pavages à la Penrose qui ont ces propriétés de quasi-périodicité, mais pas de périodicité. Mais oui, tout est ouvert. Tout est ouvert pour l'essentiel.
Existe-t-il une bibliographie sur les pentagones de Kirchner, Reinhardt
et Schumacher ? Je pourrais vous en fournir une si vous voulez. Pas à ma connaissance. Je peux vous la fournir parce que j'ai quelque part dans mon sac tous les articles correspondants. Hein ? Mais je ne peux pas vous donner un endroit où. Si, je vous recommande chaleureusement un très bon livre qui est écrit par Grunbaum et Shepard. Mais qui s'appelle Tilings and Patterns, livre remarquable où vous trouverez tout ce que vous voulez savoir jusque 82 ou 83, je crois.
Tilings and Patterns.
Voilà. Je vais écrire ça.
Oui, bonjour. Je suis spécialement intrigué par le pavage de Penrose que vous avez présenté à la fin.
Oui.
Et on a bien l'impression qu'il y a en fait 5 secteurs autour du centre, à peu près, qui doivent être le centre de la figure, qui doit être le centre de la figure générale. Et naïvement, j'ai l'impression que si on prend par exemple une diagonale, et la figure se reflète sur elle-même si on plie le long de cette diagonale. Et personnellement, j'appelle ça une symétrie. Soit j'ai mal regardé, soit c'est pas une symétrie.
C'est pas une translation, c'est une rotation. Alors voilà.
Mais pour moi, la figure se réfléchit dans un miroir.
Bon, disons les choses clairement. Les pavages de Penrose n'ont aucune symétrie de translation.
D'accord.
Hein, elles ont parfois, certains pavages exceptionnels peuvent avoir une symétrie de rotation, d'ordre 5, sauf erreur, non ? 5. Certains peuvent également avoir une symétrie de réflexion, mais ce sont par ailleurs des cas rarissimes. Mais ils sont tellement rarissimes que c'est toujours eux qu'on montre sur les transparents, parce qu'ils sont plus jolis que les autres.
Il n'y a pas comme deux pôles à l'infini dans un pavage de Penrose, donc justement deux pôles. Là, on avait clairement une symétrie de rotation.
Oui, c'est possible. Oui, attendez, j'en ai plusieurs à vous montrer. Voilà.
Dans celui-là, au centre de la figure, il y a une symétrie de rotation. Oui. Oui.
Bon, il faudrait voir, je ne sais pas si la symétrie d'ordre 5 qu'on voit est exacte. Ces pavages sont très trompeurs, parce que si on regarde de loin, comme vous, on a l'impression de voir des tas de symétries, mais en fait, elles ne sont que locales. Il y a un gros morceau qui se répète par translation, aussi gros qu'on veut d'ailleurs, mais pas tout. C'est ça qui est fascinant là-dedans. Il y a des morceaux de symétrie énormes, mais il n'y a pas de symétrie globale. Et ça, c'est quelque chose de... Je crois qu'on peut dire les Penrose en particulier nous a apporté, c'est qu'il fallait un peu parfois oublier la symétrie globale qui envoie tout l'espace sur tout l'espace. Après tout, un cristal, ça fait une taille finie. C'est les cristaux, ce n'est pas des trucs qui remplissent l'espace tout entier. Donc après tout, un cristal peut avoir une symétrie qui ne se prolonge pas hors de son domaine, en quelque sorte. Donc c'est tout un champ de réflexion nouvelle, de réflexion sur la symétrie, quitte à abandonner notre concept de symétrie comme étant une chose globale. Hein, moi, d'une certaine manière, j'ai envie d'appeler cet objet symétrique, même s'il n'y a pas de groupe. Il y a un pseudo-groupe.